Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous là ce matin pour louer et adorer notre Seigneur ensemble. C'est ça le but et la raison de notre rassemblement. Et en même temps, on en profite pour ouvrir la parole de Dieu et écouter le message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que le message s'adresse à toi et à toi seul et s'adresse pas à ton voisin. Ne s'adresse pas à ta voisine, mais s'adresse à toi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà couru un marathon ou un semi-marathon. Est-ce qu'il y a un autre coureur ici? Oui, il est au fond. Oh, même Alice a déjà couru. Je sais que Alain aussi aime courir. Alors, moi, c'est une chose que j'aime pas du tout et j'ai horreur de ça. Courir après une balle ou un ballon, pourquoi pas? Mais courir tout seul sans but, non. Alors, vous n'avez peut-être pas couru, déjà, mais vous avez peut-être regardé les JO cet été à Paris, et peut-être que vous avez regardé le marathon qui s'y est couru. Et les athlètes ont-ils le droit de faire ce qu'ils veulent pendant la course? Ou y a-t-il un règlement à suivre? Je pense qu'il y a un règlement à suivre. On voit que le parcours est bien balisé, afin que les coureurs ne se trompent pas de direction, mais aussi qu'ils ne prennent pas de raccourcis. Dans le passé, il y a quelques coureurs ou coureuses qui se sont fait attraper, qui ont pris des raccourcis, voire des taxis, pour gagner du temps. Donc effectivement, il y a des règles à suivre, afin d'arriver au point d'arrivée. Alors imaginons, revenons un peu en arrière, le marathon des JO de Paris. Après un peu plus de 2h06, parce que j'ai regardé le temps que le meilleur a mis, il a mis 2h06 et quelques secondes. Donc après 2h06 de course, les plus rapides arrivent et passent la ligne d'arrivée. Vous en conviendrez, les trois premiers arrivés doivent être normalement récompensés d'une médaille. Médaille d'or pour le premier, médaille d'argent pour le second et médaille de bronze pour le troisième. Ils sont épuisés d'une longue course. Une course, vous savez de combien de mètres, de kilomètres? 42 195 mètres. Soit 42 km et 195 mètres. Ils tiennent à peine debout, tout seuls, on est obligé de les porter. Mais avant que le podium s'installe, les trois athlètes sont appelés à passer au contrôle antidopage. Et on vient trouver des substances illicites au premier, tandis que l'on ne trouve rien d'illicite chez le second, ni chez le troisième. Alors, dans ce cas-là, que font les juges? Les juges disqualifient le premier et les juges déclarent vainqueur le second, qui courait, lui, à l'eau claire. Et le troisième devient, lui, vice-champion olympique, car lui aussi courait à l'eau claire. Deux ont respecté les règles et se sont vus récompensés, tandis que l'un n'a pas suivi le règlement et a été disqualifié. Vous conviendrez que dans tous les sports, il existe un règlement afin que la compétition se passe au mieux. Si chacun faisait ses propres règles, ça serait un capharnaüm et les choses ne pourraient pas bien se dérouler. Et en plus, il est demandé à chaque participant de connaître le règlement. Pour ce faire, et pour surveiller les athlètes, des juges ou des arbitres sont nommés afin de faire respecter, justement, ces règles et ce règlement. Et comme on l'a vu, si quelqu'un enfreint une règle, il est sanctionné, voire disqualifié. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de cela? Non, personne ne le dit. Où veux-tu en venir, Thomas? La parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne est une course, est une marche tout au long de notre vie. Nous pouvons lire dans 2 Timothée au chapitre 4 et les versets 1 à 8. 2 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 8. Je voulais chercher. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, ce n'est pas une médaille d'or, mais le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, c'est Paul qui parle, mais à tous ceux qui, avec amour, attendre sa venue. Est-ce que vous attendez la venue de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez hâte que Jésus-Christ revienne établir son royaume? Pour moi, oui, j'ai hâte. Alors nous voyons que Paul ici compare la marche avec Dieu à une course, et une course qui s'achève lorsque la mort vient frapper à sa porte. Cette course a commencé le jour où nous nous sommes repentis de nos péchés et le jour où le Seigneur nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ici, nous voyons que le prix de la victoire n'est pas une médaille d'or, mais c'est une justice éternelle qui est remise par Dieu lui-même, le juste juge. Alors s'il y a un juge, cela montre bien qu'il y a eu des règles, des préceptes, et des commandements à suivre. Et Dieu qui sonde les cœurs, les reins et toutes nos pensées sera le juste juge qui récompensera ceux et celles qui auront cru et ceux et celles qui ne se seront pas éloignés du chemin étroit en respectant ses commandements. Comme dans les sports, il existe des règlements à suivre. Aussi dans la vie chrétienne, Dieu nous impose des commandements à suivre. Mais Jésus dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et je pense qu'ici, nous pouvons tous dire au moins un commandement que Jésus nous a donné à suivre. Le plus connu de tous. Je pense que chacun de vous sait aimez-vous les uns les autres. C'est un des commandements. Effectivement. Et Hébreux 12, verset 14, nous en donne un autre. Et c'est ce qui va ouvrir notre thème du message. Hébreux 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parole difficile à lire et entendre, mais parole inscrite dans la Bible qui est la vérité. Alors comme je l'ai dit, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire, nous allons commencer une nouvelle série. Et comme vous l'avez certainement compris dans mon introduction, le thème est la sanctification. Alors nous allons y aller petit à petit, car cette doctrine est fondamentale pour notre vie spirituelle. Elle est fondamentale pour notre croissance à tous. Et nous verrons à chaque message un nouvel aspect de la sanctification. Alors ce matin, je vous propose, on va dire, de voir pourquoi la sanctification. Et de poser les bases de qu'est-ce que la sanctification. Alors je vous propose deux points. Le premier, c'est de voir ce que n'est pas la sanctification. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais pour moi, lorsqu'on définit quelque chose qui n'est pas, ça nous permet de mieux saisir ce qu'elle est dans son absolu. Et le deuxième point, on se posera une question que peut-être vous êtes déjà posée depuis 5 minutes. Pourquoi se sanctifier? Pourquoi être saint alors que nous sommes sauvés par grâce? Une bonne question, n'est-ce pas? Et on va essayer d'y répondre. Alors avant d'aller plus loin, donnons une définition de la sanctification. La sanctification signifie littéralement être mis à part pour Dieu, dédié comme sacré et vu comme saint. Alors plusieurs termes sont utilisés hein, dans notre parole. On traduit quelquefois par sanctification, par consécration, par sainteté, devenir saint, être saint. Alors, commençons par définir qu'est-ce que n'est pas la sanctification. La sanctification n'est pas un chemin pour gagner l'amour de Dieu. Car Dieu nous a déjà aimés avant la fondation, avant la création du monde. Donc Dieu ne vous aimera pas plus lorsque vous êtes sur le chemin de la sanctification. Romains 5, verset 8, l'exprime bien. Romains au chapitre 5, verset 8. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Paul explique ici que Dieu nous a aimés bien avant que nous nous sanctifions, puisque Dieu nous a prouvé son amour bien avant que nous lui appartenions. Jésus-Christ a aimé les hommes avant la fondation du monde et a décidé de venir donner sa vie afin de prouver son amour pour eux. Donc la sanctification n'est pas un chemin pour gagner l'amour de Dieu. La sanctification n'est certainement pas la perfection. Pour ma part, je ne pense pas être devenu parfait le jour de mon baptême. Et je pense que pour vous de même, le jour où vous êtes fait baptiser, vous n'êtes pas devenu parfaite ou parfait. Cependant, c'est la sanctification qui nous permet de grandir, mûrir dans notre foi, afin d'atteindre cette perfection. La sanctification n'est pas un ensemble de règles à suivre pour paraître saint. La religion veut nous imposer des règles à suivre. Les religieux de tout temps veulent imposer aux gens, aux chrétiens, des préceptes à suivre en nous faisant croire qu'ils participent à notre sanctification. Mais rappelons-nous que nous sommes saints. Pourquoi ? Car Dieu est saint. Et c'est lui qui nous a rendus saints lors de notre conversion. Regardons 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. 1 Pierre, au chapitre 1, versets 15 et 16. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Un autre passage dans le Nouveau Testament montre que ce n'est pas en suivant des règles que l'on devient saint. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit concernant ce qui rend impur. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, nous pouvons lire à partir du verset 18 jusqu'à 23 ce que Jésus dit. Jésus leur répondit : Ainsi vous aussi vous ne comprenez pas, ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela en effet ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ici, Jésus explique à ses disciples ce qu'il vient de dire juste quelques versets auparavant aux pharisiens. Il leur apprend cette leçon et dit clairement que c'est de l'intérieur de l'homme, que ce sont des pensées du cœur de l'homme que vient le mal, et c'est ce qui rend impur quelqu'un. Eux, les pharisiens, mettaient l'accent sur le paraître et ce que pouvaient penser les autres d'eux. Ils ont été capables de ne pas rentrer dans le palais du gouverneur lors du procès de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas devenir impurs en rentrant chez un païen. D'ailleurs, précepte rajouté par leur tradition. Et en même temps, ils ont été capables de mentir en faisant condamner un innocent. Tout le long de l'histoire chrétienne, les hommes ont voulu imposer des traditions pour preuve de sainteté. Alors, quelques exemples. Le vendredi, par exemple, il est interdit de manger de la viande. Les hommes de l'Église ne doivent pas se marier, alors que c'est en désaccord total avec la parole de Dieu. Il y a aussi le vœu de pauvreté, et la liste est encore longue. Malheureusement, nous voyons bien que ces traditions n'ont pas fait progresser les hommes et les femmes dans leur sanctification. Alors attendez, il nous faut aussi balayer devant notre porte évangélique. Il y a une époque pas si lointaine où les hommes devaient porter la cravate pendant le culte, où les femmes devaient avoir une certaine longueur de cheveux. Et que dire de nos traditions évangéliques où nous nous imposons notre liturgie pour le déroulement de nos culte, comme si c'était bibliquement fondé. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous mentons aussi comme les autres. Nous faisons le mal comme tout le monde. La sanctification n'est certainement pas dans les aspects extérieurs. Et l'image que nous pouvons laisser paraître, non, c'est un changement intérieur qui vient de nos pensées et de notre cœur. Si la sanctification venait de l'extérieur, on pourrait alors croire à ce proverbe qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et le mettre dans le sens en disant « l'habit fait le moine ». La sanctification n'est pas aussi un processus naturel. Elle ne résulte pas d'une bonne pratique dictée par des experts en psychologie, dictée par des coachs de vie ou par des livres sur le développement personnel. Car ces pratiques, qui peuvent être bonnes, soi-disant passant, s'adressent avant tout à des personnes non chrétiennes. Non, la sanctification est un processus qui vient d'en haut, un processus surnaturel. Voyons ce que Paul nous dit dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 26. Galates 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Paul explique clairement que la sanctification ici est issue d'un processus surnaturel par l'action du Saint-Esprit. En suivant les préceptes du Saint-Esprit, nous porterons le fruit de l'Esprit qui habite en nous. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie par son Esprit en nous recommandant justement d'être conduits par son Saint-Esprit. Alors, deuxième point que nous allons voir maintenant, pourquoi être saint et pourquoi se sanctifier puisque nous sommes sauvés par grâce? La sanctification seule ne sauve pas, mais il n'y a pas de salut sans elle. Comme Paul l'a dit aux croyants de Thessalonique, on le trouve dans 2 Thessalonique 2, verset 13, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et dans Hébreux 12, 14, que nous avons déjà lu, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La première chose que nous pouvons dire, c'est que la sanctification n'est pas optionnelle, mais bien au contraire, elle est obligatoire pour notre salut et que c'est un commandement que Dieu nous demande. Certes, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est Éphésiens 2, versets 8 et 10 qui nous le dit. Mais nous sommes aussi saints par la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous avons été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Par son œuvre à la croix, Dieu nous a rendus saints. Lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu, lorsqu'il nous a sauvés par grâce et que nous sommes repentis, nous avons reconnu notre misère, reconnu notre péché, Dieu nous a pardonnés, sauvés par la foi, et Dieu, à ce moment-là aussi, nous a rendus saints. Alors l'œuvre de Christ à la croix a deux aspects dans notre salut. Le fait d'être pardonné de nos péchés, je viens de le dire, et le second nous a mis à part pour Dieu, c'est-à-dire nous a rendus saints. Car je vous rappelle qu'être saint veut simplement dire être mis à part pour un Dieu saint, comme nous l'avons déjà lu. Soyez saints, car je suis un Dieu saint. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les ustensiles du temple étaient sanctifiés, c'est-à-dire ils étaient mis à part pour n'être utilisés que pour le service du temple. Les ustensiles étaient donc saints, mais ils étaient mis à part et ne servaient que pour le service du temple. Donc si on réfléchit, on peut dire que Dieu nous demande une chose que nous sommes déjà. Puisque Dieu nous a rendus saints en Jésus-Christ par grâce, et en même temps, comme nous l'avons vu, il nous demande d'avoir une vie sainte, une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cela montre bien que la sanctification est un processus qui commence à notre conversion et qui se poursuit tout le long de notre marche avec Dieu, ou comme Paul le disait, tout le long de notre course. Je vous cite un commentaire biblique que j'ai trouvé très intéressant et qui résume très bien ce que j'ai essayé de vous expliquer. Par l'offrande du corps de Jésus et par son sang, nous avons été sanctifiés. Hébreux 10:10, Hébreux 13:12. Cela nous place dans une position d'appartenance à Dieu. Mais la sanctification pratique est un processus qui doit se poursuivre tout au long de notre vie. 2 Corinthiens 7:1. C'est une croissance vers la maturité spirituelle et la perfection en Christ. Alors pourquoi nous devons nous sanctifier alors que nous sommes justifiés par la grâce? Car contrairement à la justification par la grâce, la sanctification est une chose à laquelle Dieu nous demande de participer, comme nous pouvons le lire dans sa parole. Vous n'avez eu aucun pouvoir, entre guillemets, sur votre salut. C'est Dieu qui a tout fait. Dieu vous a donné la foi de croire. Dieu est venu en personne de Jésus-Christ payer le prix afin d'ôter votre péché. C'est quelque chose d'acquis, être sauvé par la grâce. C'est quelque chose de même légal, les termes utilisés dans la parole, si on cherche, ce sont des termes légaux. Donc c'est une fois pour toutes. Contrairement à la sanctification, c'est une chose que Dieu nous a donnée, comme nous l'avons vu, pour lui appartenir, mais en même temps qui nous demande de progresser dedans. Alors 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 15 et 16, nous le montrent bien. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints car je suis saint ». Comme je viens de le dire, tandis que la justification est une chose acquise une fois pour toutes et à laquelle nous n'avons pas besoin de participer car Jésus a tout fait pour nous. De même, ou plutôt la sanctification est une chose que Dieu nous donne, mais à laquelle nous avons une participation à avoir. Alors pourquoi suivre ce chemin, cette course dans la sanctification? Une des raisons des plus logiques, c'est car la parole de Dieu nous le demande, tout simplement. Comme on l'a lu, Dieu nous demande d'être saints comme lui il est saint. Et rien que ça devrait nous suffire pour obéir à ce que Dieu nous demande. Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer, et les théologiens l'expliquent autrement, ils distinguent deux sanctifications, ou donnent deux noms. La sanctification positionnelle, c'est-à-dire la sanctification lorsque Dieu nous sauve et nous rend saints par la grâce et par le sang de Jésus. Et la sanctification progressive qui découle de la première. Lors de notre conversion, lorsque Dieu est venu en nous, lorsque nous avons été arrachés du royaume des ténèbres et mis dans son royaume de lumière, Dieu nous a mis à part. Et à ce moment-là, Dieu nous demande de progresser dans notre marche par une sanctification que les théologiens appellent la sanctification progressive. Parce que comme on l'a vu, la sanctification, ce n'est pas la perfection. Mais la perfection, on l'atteindra jamais ici-bas. Jusqu'à notre dernier souffle, on sera des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses, mais des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses, mais sauvés par la grâce. Nous atteindrons la perfection quand Jésus-Christ viendra nous chercher. À ce moment-là, nous deviendrons parfaits. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit « Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. » Paul encourage les Corinthiens ici à s'efforcer à devenir saints, à s'efforcer à suivre Dieu et à suivre ce qu'il nous demande dans sa parole. Donc, il ne vous aura pas échappé que tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous ne serons pas parfaits. Et Dieu nous met à part dès le début de notre marche avec lui, mais il nous demande de progresser dans toute notre conduite dans ce monde. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 15. Mais soyez saints dans toute votre conduite. Alors la perfection, oui, sera atteinte quand nous rejoindrons notre Seigneur ou bien quand Jésus viendra chercher son Église. Pour mieux comprendre le besoin que nous avons tous de nous sanctifier, j'ai trouvé un tableau dans mon super livre de chevet de 800 pages, Théologie systématique de Wayne Grudem, qui va expliquer, qui montre les différences entre la justification et la sanctification. Et je suis sûr qu'avec ce tableau, ça va être encore beaucoup plus clair. La justification, comme on l'a vu, c'est un statut légal. Dieu a payé. Dieu a payé notre dette. Il a fait un chèque pour nous, en blanc, pour nos péchés et nos péchés futurs. Par contre, la sanctification, comme on l'a vu, c'est une condition intérieure. La justification a lieu une fois pour toutes. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes et il est ressuscité. La sanctification, par contre, se poursuit tout au long de la vie. La justification est entièrement l'œuvre de Dieu. On ne peut pas intervenir dans notre justification, on ne peut pas intervenir dans notre salut, ni par nos œuvres, ni par tout ce qu'on peut faire. Tout est grâce et tout vient de Dieu. Par contre, la sanctification, Dieu nous demande d'y participer. La justification est parfaite dans cette vie. Soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Il n'y a pas un entre-deux. Par contre, la sanctification ne sera jamais parfaite comme on l'a vu dans cette vie. Et la justification est identique chez tous les chrétiens. Tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont reconnu leurs fautes, sont sauvés. Point final. Mais la sanctification est différente selon les personnes. Effectivement, si vous êtes jeune chrétien, jeune baptisé, vous entrez dans cette marche, dans cette course, et vous êtes comme un bébé, dit Paul. Et les bébés boivent au début du lait, se nourrissent avec du lait. Et donc Paul explique très bien que notre vie chrétienne est comparable lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous tournons vers Dieu. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'on va dire les béaba pour pouvoir grandir, prendre de la force. Et au fur et à mesure de notre vie, de notre croissance spirituelle, alors les choses liquides deviennent un peu plus solides. Et on s'attaque à du costaud même, à un bon beefsteak, et où il faut bien mastiquer, bien mâcher pour pouvoir en tirer toute l'incandescence, tout ce qu'il y a dedans. Et avec la parole de Dieu, c'est pareil. On avance petit à petit. Et nous sommes un corps, et nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Les plus anciens sont là pour aider les plus jeunes à les guider, à les diriger, à leur expliquer peut-être des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, pour conclure, je cite un commentaire biblique que j'ai trouvé très pertinent et qui peut un peu résumer ce qu'on vient de dire. L'œuvre de Jésus est le fondement de la justification. La vie de Jésus est le modèle de la sanctification. Nous pouvons dire que l'obéissance au commandement de Jésus participe pleinement à notre sanctification. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui suivent mes commandements. La sanctification est le moyen que Dieu utilise pour que ses enfants ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. En d'autres mots, la sanctification est le processus dans la vie du chrétien pour que Christ soit formé en lui. La sanctification nous permet de nous éloigner de plus en plus du péché et en même temps nous permet que Jésus-Christ se forme de plus en plus en nous. La sanctification est l'appel de Dieu à notre transformation pour devenir semblable à Jésus, notre exemple parfait. La sanctification est en fait un état d'esprit qui nous pousse à reconnaître chaque jour notre faiblesse, à reconnaître notre péché, et qui nous pousse chaque jour à venir à la croix de Jésus-Christ pour nous repentir. Notre modèle de sanctification reste et restera toujours Jésus. Jésus est venu sur terre. Il a accompli ce que le Père lui a demandé, lui, à la perfection. Il n'a pas trébuché, il n'est pas tombé, il n'a pas péché. Alors c'est pour ça que c'est notre modèle parfait. Nous verrons dans le message de dimanche prochain avec David le comment y arriver. Sans spoiler ce qui sera dit, nous verrons que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu nous donne tous les moyens pour y arriver. Que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour arriver à se sanctifier jour après jour. Alors, je ne sais pas comment vous avez reçu ce message. Je ne sais pas si cela vous a interpellé et peut-être remis en cause certains de ce que vous pouviez penser. Vous pensiez peut-être que la justification par la grâce était suffisante pour être chrétien et devenir disciple de Christ. Mais nous venons de voir que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Vous pensiez peut-être que venir écouter la parole le dimanche suffisait. Nous verrons dans l'ensemble des messages que nous donnerons que la sanctification touche tous les domaines de notre vie. Et ce matin, j'aimerais prier pour vous et pour moi, afin que nous prenions conscience de l'importance de la sanctification. Il est important de ne pas rester dans cet état de bébé spirituel, mais il est important d'entrer pleinement dans ce que Dieu nous demande, la sanctification. Et nous verrons que la sanctification s'applique dans le corps de Christ, s'applique dans l'Église. Être seul ne permet pas de se sanctifier, mais vivre entre nous les relations fraternelles, cela permet de nous faire grandir dans notre sanctification. puisque nous avons vu que la sanctification, c'est de laisser le péché qui nous environne si facilement, afin de laisser Christ venir et habiter en nous. Alors ce matin, j'aimerais prier pour vous, pour moi, afin que nous prenions conscience de l'importance de cette sanctification, de prendre conscience que Jésus-Christ nous a demandé de suivre ses commandements et ainsi on prouve son amour pour Christ. Le chanter, le dire, c'est facile, moi le premier, mais le vivre, c'est autre chose. Le vivre en étant confronté les uns avec les autres, eh bien cela fait des étincelles parfois, parce que on peut et je peux agacer une personne, un frère, une sœur, comme vous pouvez m'agacer. Et c'est à ce moment-là que Dieu agit en nous et nous demande de bien réagir afin que nous puissions grandir dans cette sanctification. Alors prions.